Petit reportage.
Voilà, c'est ça. Alors, première question.
Qui ? N'importe quelle question. Vous envoyez, je ramasse et je vous renvoie une réponse, le plus simplement du monde.
Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez envie de faire le théâtre ? Vous aviez envie de faire le théâtre ?
Super question. Quand j'étais petit, j'étais timide. Tant et si bien que quand je suis revenu à Martinique, d'abord professeur, et j'ai commencé à faire la scène, toute ma famille était étonnée, et les gens qui me connaissaient comme moi, j'oublie. Eh bien voilà, il y a un contre-champ à la timidité. On peut être timide, réservé. Trop timide, ça ne va pas, parce qu'on est alors introverti. Timide, réservé. Et puis un jour, la scène devient comme un miroir qui affirme une identité. Voilà, on peut partager avec un public, avec des gens, toujours en famille et dans la vie courante, je suis toujours plutôt réservé. J'aime surtout pas être devant, mais pour le théâtre, en principe, on ne devrait pas être timide. Mais il y a l'art, justement, de prendre de la distance par rapport à soi-même et par rapport aux choses. Donc voilà, je n'avais pas forcément la vocation, d'autant plus que je suis parti pour faire des études.
Pourquoi pour vous, la Martinique, c'est comme le paradis ?
Eh bien, quand on est dans une île, en plus qui n'est pas très grande, on a l'impression d'en mesurer les contours. Et puis, nous avons deux saisons à la Martinique. Une saison de pluie qui s'appelle l'hivernage et une saison de soleil qui s'appelle le carême. Quand c'est la pluie, on n'est pas très content, mais il faut faire avec. Mais quand c'est le soleil, quel plaisir! La mer est à deux pas, hein? Tout le monde connaît la mer. Dire que dans les continents, il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer. La mer, les oiseaux, la montagne, les microclimats, puisque la Martinique, il y a toutes sortes de climats. Il y a de la géographie diverse. Et c'est vrai que, vu de près, on est dans un paradis. Vu de loin, c'est autre chose, parce qu'il y a des problèmes comme partout. C'est un paradis pas parfait. Un paradis avec des problèmes, un paradis qui aspire à devenir ce qu'il est, au fait.
Merci.
Mathias, as-tu une question ? Charlie, tu as une question ? Lina, as-tu une question ? Safa, tu as une question ?
Qui veut ? N'importe quelle question, hein, vous savez, vous jetez une question comme ça, sur la vie, la culture, la famille, le créole, n'importe quoi.
À quel âge vous avez commencé le théâtre?
Alors, au fait, j'ai commencé le théâtre à Paris, avec la fameuse pièce Qui m'a foutu et ça. Et c'est là que j'ai goûté à ce fruit-là et que j'ai pris goût à la chose. Je devais avoir, à ce moment, peut-être 30 ans, à peu près, à mon retour d'Afrique. Et après, à Martinique, j'ai un peu continué le théâtre, mais surtout, je suis devenu un diseur, et on appelle ça maintenant slameur. Je travaille seul ou avec des musiciens et je dis des poèmes. De temps en temps, je joue dans un film comme un Rue Casneg ou d'autres films. De temps en temps, on m'invite à participer à une pièce de théâtre, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise en tant que comédien. Mais j'aime le théâtre quand même, mais j'aime surtout partager mes paroles comme un poète avec des musiciens. Et ça, c'est mon activité principale. Ah, vos questions sont très intéressantes.
Vraiment. Est-ce que c'est vous qui avez composé la musique ?
Non. La musique a été faite par Sébastien Bertrand, qui est un artiste de la région nantaise, qui est d'ailleurs d'origine libanaise. Et le texte, je l'ai écrit à deux plumes, avec Nicolas Bonneau, qui est un écrivain aussi de la région. La musique, donc, pour vous dire, parler un peu de la cuisine de cette pièce, Sébastien Bertrand et Nicolas sont venus à la Martinique passé une semaine, puis le Nantais est revenu encore à peu près deux ou trois mois après, donc ce qu'on appelle une résidence. Là, ils ont rencontré mes parents, ils ont rencontré mes amis, ils ont vu les lieux où j'ai vécu, les lieux que je fréquentais, et tout ça les a inspirés. Et la musique, ils ont fait d'abord la trame principale, et après la musique a été faite in situ, c'est-à-dire au moment où nous répétions, avec un spécialiste des sons, qui s'appelait Gaël. Et voilà, on a créé une musique comme ça. Et bien souvent, vous voyez qu'il y a des parties rythmiques. Je leur disais, tel texte, je le vois sur telle pulsion. Alors, je leur donnais la pulsion. Même au moment où vous entendez, c'est moi qui leur ai donné cette pulsion. Donc, ils l'ont fait rentrer dans la machine, dans la musique. Comme ça, je peux jouer là-dessus. Donc, au fait, c'est une rencontre entre leur univers musical, surtout Sébastien qui est accordéoniste, et mon univers musical. Ça donnait cette musique. Ça vous a plu, la musique? Il y a de bons moments, hein? Il y a des moments un petit peu comme ça, assez denses. Oui?
Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien?
Eh bien, alors, bien sûr, il y a eu déjà cette petite expérience à Paris. Et quand je suis rentré en Martinique, j'ai commencé à enseigner pendant 2 années, je le dis dans la pièce. Et je me suis rendu compte qu'enseigner une langue vivante, ça demande quelques moyens. Ça demande aussi une certaine posture même de l'éducation nationale par rapport à ça. Et j'avais l'impression de ramer. En ce temps-là, on se situe dans les années 1978, eh bien, on avait un seul magnétophone et il ne marchait pas souvent. Et donc, d'ailleurs, en mon temps, quand j'ai fait mes études, eh bien, nous savions bien écrire la langue, mais nous ne la parlions pas. Or, apprendre une langue, c'est d'abord oral. Il faut donc voyager, il faut des jeux de rôle, il faut des magnétophones, des écrans pour se projeter, se voyant dire. Et donc tout ça, ça m'a un petit peu dégoûté, alors que j'étais un super prof. Les élèves m'aimaient, en prenaient un pied. Mais j'ai dit non, je me lance dans la profession d'artiste. Ce qui n'a pas été facile. Voilà. Autre pregunta? C'est vrai, les questions sont vraiment très intéressantes parce que tout cela touche vraiment à la réalité de la pièce. Oui?
Vous êtes resté combien de temps dans l'armée?
Dans l'armée? Eh bien, en ce temps-là, c'était pas comme maintenant. 22 mois de service militaire. Aïe, 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 on le sentait passer. Hein? Quand tu venais d'une île, soleil et tout, et que tu te retrouvais, moi en l'occurrence, dans les Alpes du Sud, avec le froid qu'il faisait. Alors, moi, je ne me suis jamais beaucoup plaint, ni dans l'armée. En général, je suis très stoïque. Il y a une situation, il faut la vivre. Mais ma chance, c'est que comme j'étais un peu cultivé, j'avais mon bac et tout. Donc après les 3 ou 4 premiers mois où j'étais deuxième classe Bernabé à en chier avec les adjudants, ils me faisaient rigoler. Des moments, vraiment, je rigolais plutôt de me fâcher. Mais les chefs n'aimaient pas ça. Mais après 3 ou 4 mois, le colonel m'a pris comme secrétaire. Alors je vous dis, dans l'armée, quand on vit le service militaire, surtout en ce temps, autant les adjudants, les sergents-chefs sont vraiment chiants, pardonnez-moi l'expression, les grands chefs étaient plutôt peinards. Donc j'étais bien avec le colonel, il prenait soin de moi, bon, il m'appelait Joby et tout. Et donc j'ai eu quand même un service militaire assez sympa. Bien sûr, il y a eu quelques crapahutages dans la montagne. Je voyais des potes qui pleuraient. Moi, dans le foie comme ça, on nous mettait des cailloux dans le sac à dos pour qu'ils aient du poids. Si tu es à l'armée, il faut que tu aies des épreuves. Ce n'est pas évident, j'ai vécu ça une fois peut-être. Dieu merci, le colonel m'a sorti de là. Ouais. On va se prendre encore 2 questions. Comme je joue cet après-midi, je vais après respirer un peu. Alors, dos últimas preguntas. S'il y a encore de petites questions. Oui?
Par rapport à votre travail de poète.
Oui.
Vous avez publié des recueils de poésie
Oui, j'ai publié un premier recueil il y a 40 ans, petit recueil qui est épuisé. Et puis il y a quelques 8 ans, j'ai publié un recueil qui s'appelle « Démarrer, ange de terre brûlée ». Parce que j'ai imaginé le monde comme une espèce de terre. Vous savez, en agriculture, il y a une technique agricole qui consistait dans le temps, quand on avait de la terre et qu'on voulait la renouveler, on la brûlait pour qu'elle soit renouvelée. Et j'ai imaginé que nous sommes, surtout nos enfants, seront des anges de terre brûlée. Ce ne sera pas forcément quelque chose de volontaire, mais avec tout ce qui se passe, il va y avoir peut-être de grandes catastrophes. sans être catastrophiste. Et sur cette terre, il va renaître peut-être un nouvel homme, Ange de Terre Brûlée. Donc c'est un recueil bilingue, français et créole. Et j'ai déjà sorti 4 disques, 2 vinyles et 2 CD. Avec, j'ai un dernier CD qui est sorti qui s'appelle Slam de fond. L'âme de fond, j'ai mis un S devant, pour faire slam, puisque maintenant on ne connaît que ça. Le slam, quand on dit des textes, on dit ouais, c'est du slam. Et souvent, en interview, on me dit mais Joby, vous êtes un précurseur du slam. Parce que bien avant le slam, je disais des textes et j'étais le premier à faire ça en Martinique. Ça n'existait pas. On ne venait pas sur scène pour dire des poèmes. Voilà, de manière professionnelle. J'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y en a une dernière ?
Pour son deuxième ou troisième, vous avez parlé beaucoup de la Martinique et vous avez parlé beaucoup de votre histoire et de l'histoire de la Martinique. Et en fait, moi, vous avez parlé aussi de cahier d'un
retour au pays natal.
Retour au pays natal. Et quel conseil vous leur donnerez à ces élèves pour justement lire, quel livre lire outre cahier ?
Et pour le cahier ou autre livre ?
Autre livre.
Ou d'autres livres ?
D'autres livres, d'autres poètes, d'autres...
Oui, à la Martinique, l'œuvre de Césaire a un peu bouché le paysage. Il y a un moment, tout le monde ne voyait que par Césaire. Et évidemment, le cahier de retour au pays natal, nous l'avons connu très tard, parce qu'à l'école, on ne nous le présentait pas, parce qu'en ce temps, Césaire était considéré comme un révolutionnaire. Et en même temps, on considérait que son écriture était hermétique. Au fait, il y a des textes qui ne sont pas faciles. Mais dès la troisième, on peut étudier Césaire. Et puis à côté, nous avons un poète philosophe qui s'appelle Édouard Glissant, qui est assez connu. Et parmi les nouveaux poètes, il y en a un qui s'appelle Monchorachi, qui est connu un peu en France. Vous pourrez trouver ses œuvres. Et puis il n'y a pas tout compte fait de grands poètes qui sortent du lot en Martinique. Et Monchorachi, Aimé Césaire, Georges Desportes. Et puis il y a toute une poésie dont on nous a abreuvé à l'école, qui était une poésie un peu mièvre. On appelait ça la poésie doudouiste, qui n'était qu'en vers, qui parlait seulement de la beauté de la nature, les fleurs et tout. Mais à partir des années, 70, il y a une poésie qui était beaucoup plus dense, plus revendicative. Et il n'y a pas, au fait, de grands poètes qui se sont détachés, à part Césaire et Monchorachi, dont je viens de dire le nom, que je dis de temps en temps. Voyons voir s'il y en a un autre. Et Édouard Glissant, si vous avez vraiment un parcours littéraire, un moment, vous viendrez à Édouard Glissant, qui est aussi connu, mais qui est décédé, comme Césaire d'ailleurs. Édouard Glissant, qui a surtout, inventé des concepts qui permettent d'articuler une réflexion. Le concept, pas du créole, le créole c'est la langue. Il a parlé de la créolisation, le fait que les cultures, parce qu'en Martinique, il y a des gens de race blanche, il y a des métis, il y a des gens de race indienne, il y a bien sûr tous les descendants d'Afrique, il y a des Libanais, il y a vraiment, c'est un melting pot culturel, et Édouard Glissant a élaboré le concept de créolisation. Et donc, en ce moment, dans le texte, on dit un jour... Je me souviens qu'un jour, je me souviens, c'est une formule, qu'un jour le monde sera créole ou ne sera pas, eh bien évidemment, maintenant, le monde est en train de se créoliser. Et on n'a pas vu venir, avec tous ces mouvements de réfugiés, c'est une créolisation. Dans 30 ans, la France sera un grand melting pot, et presque tous les pays, et on va voir au fur et à mesure, les cultures vont se mélanger, chacun va apporter sa part, sa particularité, son particularisme, sa part de culture, et tout cela va enrichir la dimension humaine et humanitaire. Donc ça s'appelle la créolisation, et Glissant a eu l'occasion d'en parler dans les médias nationaux en France, où il a mené ce concept de créolisation et le concept de tout le monde. Parce qu'en créole, pour parler de tout le monde, de la masse, on dit « tout moun ». Il a traduit « tout moun »,« moun », ça veut dire « personne ». Il a traduit par « tout monde ». Là aussi, c'est un concept. Maintenant, nous sommes à l'époque du « tout monde ». Bientôt, il n'y aura plus spécialement d'histoire de race. Il va y avoir des métissages et en même temps, il va y avoir des métissages culturels. Et donc, pour finir, il y a eu deux grandes philosophies un peu poétiques, celle de Césaire, qui s'est ancrée surtout dans la revendication d'une racine verticale, qui est celle qui plonge dans la chair rouge du sol d'Afrique. C'est pour ça qu'on l'a appelé le poète de la négritude. À cette époque, Césaire, quand il a été d'ailleurs étudiant, il était avec Léopold Sédar Senghor, qui était l'un des premiers présidents du Sénégal. Ils ont créé le mouvement de la négritude pour dire, bon, les nègres ont été infériorisés, ont été méprisés, ils ont été considérés comme des bêtes, comme des meubles. Eh bien, maintenant, nous revendiquons notre négritude, mais nous revendiquons surtout notre appartenance entière au monde. Et Glissant est venu après, a dit, oui, ça c'est les racines verticales qui vont chercher notre assise au monde et à la terre africaine. Mais lui, Glissant, est venu avec l'idée de rhizome, de racines horizontales, parce qu'il y a des plantes qui font des racines comme ça. Et lui, l'idée de rhizome, ça veut dire que nos racines vont rencontrer d'autres racines, nos identités vont se croiser avec d'autres identités, et ça, c'est l'avenir. La négritude, à ce moment, est un peu dépassée. Maintenant, à quoi bon crier « je suis nègre », oui, je suis nègre, toi, je suis meilleur que toi, toi, tu es blanc et tout. Ça ne sert plus à rien. Maintenant, on arrive à l'époque de l'échange, du partage, de la communication et de l'enrichissement mutuel des cultures. Je vous remercie donc d'être là, votre présence m'enrichit, vos questions sont super intéressantes. J'espère que la pièce vous a plu et je vous dis bon après-midi, que vogue la galère, bonne vie et vous embrassez vos parents de ma part.
Merci.
Merci.